L'évangile de Jean, chapitre 14. Quelqu'un dit que quand nous arrivons à ces chapitres dans l'évangile de Jean, les chapitres 14 à 17 notamment, nous entrons dans un sens dans le saint des saints de l'Écriture. Le moment le plus intime de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, juste avant d'aller à sa croix. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le contexte des troubles déchirants. Vous vous rappelez que à la fin du chapitre 13, Jésus, ce soir, nous apprend, faisant semblant d'être là, il nous apprend une nouvelle vraiment complètement bouleversante. Un des nôtres, un des douze, va le trahir. Et non seulement cela, il vient de dire, et je vous lis la fin du chapitre 13, verset 36, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donnerais ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. » Donc nous sommes dans cette pièce, autour de cette table pour manger. Le prêtre vient de partir, Judas Iscariote. Nous sommes déjà un peu ébranlés. Et maintenant, le Seigneur annonce que le plus fort d'entre nous, notre leader naturel, le courageux, pierre va pas tenir 12 heures, mais il va renier le Seigneur. Qu'est-ce que nous autres, on va faire dans les mêmes circonstances? Nous ne pouvons pas vraiment comprendre les premiers mots du chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi, sauf si nous enlevons cette séparation qui ne devait pas y être dans notre Bible. Parce que le chapitre 14 est en fait la suite. Si nous étions là, il n'y aurait pas eu une seconde d'intervalle entre le dernier verset du chapitre 13 et le premier verset du chapitre 14. Ce que nous aurions entendu, c'est ceci. Tu donnerais ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Le pire, c'est que Jésus vient de nous dire aussi qu'il va partir et que nous ne pouvons pas le suivre. Un le trahit, l'autre le plus fort le renie. Et dans quelques heures, nous aurons besoin de ces paroles, que votre cœur ne se trouble pas, parce que le Seigneur, dans la présence de qui nous étions rassurés pendant 3 ans, presque invincibles, tant qu'il était là, il sera non plus ce sauveur qui ressuscite les morts, qui calme les tempêtes, qui chasse les vendeurs du temple, mais il sera le plus pitoyable des hommes, le plus affaibli et faible, pris à partie et pendu sur une croix. Et nos cœurs seront complètement ébranlés. Qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Est-ce que vous avez des troubles? Vous êtes parfois dans des situations qui sont ébranlantes. Je vous assure que jamais autant que ses disciples en ce moment-là. Donc ce que le Seigneur a à leur dire, il a à nous dire. Et cela marchera, pour ainsi dire, pour nous comme pour eux. Deuxième point. Après avoir vu le contexte, maintenant le seul ordre de Jésus aux disciples troublés. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture que dans tout ce discours du verset 1 au verset 14, Jésus donne un seul ordre, une seule chose à faire. Croyez que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Les disciples l'interrompent deux fois dans ce premier discours, cette nuit-là, et il y a Thomas, il y a Philippe, mais ces interruptions ne divertissent pas Jésus de cette seule chose qu'il veut imprimer dans nos cœurs. Ça, c'est que l'ordre suprême, la première chose que vous devez faire pour vivre au milieu d'un monde troublé, c'est de faire confiance, de vivre dans une atmosphère de confiance dans le Père et dans le Sauveur. Thomas interrompt, Philippe interrompt, mais que voyons-nous à la fin du passage? Regardez la fin du passage, verset 14. Pardon, on va plutôt prendre verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit. Il a commencé en disant que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi moi. Et à la fin du discours, il y est toujours. Regardez le verset 11, on remonte. Croyez-moi. Regardez le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Regardez le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, croyez que vous avez la connaissance. Ayez l'assurance. Vous avez la connaissance du vrai Dieu. Regardez le verset 4. Où je vais, vous en savez le chemin. C'est-à-dire, ne soyez pas dans le doute. Où est le chemin? Est-ce que je sais le chemin? Vous savez le chemin, croyez-le. Soyez dans l'assurance. Et donc, vous pouvez voir que tout au long de ce discours, le Seigneur veut nous apprendre que l'ordre suprême de la vie chrétienne, qui nous permet de naviguer n'importe quelle situation, c'est la foi, la confiance. Et c'est ça que nous voulons explorer aujourd'hui. Nous allons juste prendre un moment pour regarder maintenant, troisièmement, la structure de ce discours de Jésus. Parce que nous allons prendre quelques semaines pour l'étudier. Aujourd'hui, le but, c'est juste d'avoir un peu le survol, de ne pas se perdre dans les arbres, mais de voir la forêt. Okay? Et puis, nous allons aller au microscope dans le verset 1. C'est tout ce qu'on va faire. Maintenant, le survol. Donc, dans le verset 1, il pose cet ordre dont je vous ai parlé. Croyez, croyez, croyez! Ne permettez pas que vos cœurs soient dans l'incrédulité, dans l'anxiété, mais plutôt dans la confiance. D'accord? Il pose cet ordre. Ensuite, le passage, les paroles du Seigneur se divisent assez facilement en deux parties. Dans la première partie, il donne des raisons pour lesquelles nous pouvons croire, des raisons qui concernent le fait que le Seigneur s'occupe de notre futur. Et dans la deuxième partie du passage, il donne des raisons pour croire parce que le Seigneur s'occupe de notre présent. Okay? Et chacun de ces deux idées, il s'occupe de ton futur, soit dans la confiance, il s'occupe de ton présent, soit dans la confiance. Chacun de ces deux parties a deux sous-parties. Okay? Donc, je vous donne ainsi la structure. Première partie, les versets 2 à 7. Au milieu des troubles de ce monde, donc, et confiance en le Père et en Jésus, car il assure votre destination future et finale. Et donc, vous avez vu dans le verset 2, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, je reviens vous prendre. Donc, la destination, soyez dans la confiance, parce que la destination future, je vous assure. Tout va finir bien. Et la deuxième sous-partie de cette future, c'est que je suis le chemin. Donc, vous savez comment y arriver. Non seulement le lieu est sûr, mais le chemin pour y arriver est sûr. Je m'occupe de votre futur éternel. Soyez dans la confiance. OK? Maintenant, ça nous amène jusqu'au verset maintenant 8, où nous commençons la deuxième partie. Dieu vous dit, soyez dans la confiance, je m'occupe de votre présent. Et donc, au milieu des troubles de ce monde, nous pouvons être confiants parce qu'il s'occupe de tout ce qu'il nous faut pour notre vie chrétienne et notre appel pour bâtir le royaume ici-bas. Donc, il y a deux sous-parties. D'abord, les versets 8 à 11. Donc, notre plus grand besoin ici-bas, c'est de connaître le Père Céleste, et Jésus assure ce besoin. Ça, c'est la question de Philippe. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. On n'est plus dans le ciel, on n'est plus en train de parler du futur, on est dans le maintenant. Jésus a parlé du ciel, il a dit, vous en savez le chemin, donc ça, c'est bien. Mais maintenant, Philippe dit, mais montre-nous le Père. Il sait qu'il ne peut pas aller maintenant. Jésus a dit, vous n'allez pas auprès du Père maintenant. Vous irez plus tard. Mais Philippe veut que Dieu nous montre le Père un peu quand même maintenant dans notre vie présente parce que c'est notre plus grand besoin. OK? Et Jésus dit, donc, entre guillemets, vous l'avez vu en moi-même. Donc, vous avez un moyen de connaître et de grandir dans la connaissance du Père. C'est à travers moi-même. Okay. Donc, ce plus grand besoin du chrétien, Jésus l'assure. Mais le deuxième besoin nous amène pour la première fois loin de nous-mêmes et nos besoins du ciel, nos besoins d'avoir le chemin vers le ciel, nos besoins de connaître le Père, on va penser quand même aux autres. Parce qu'en restant ici bas, dans ces besoins du présent, on a besoin de connaître Dieu, mais on a besoin de répondre à son appel, de bâtir le royaume de Dieu dans ce monde. Et donc ça, c'est les derniers versets que nous avons. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Donc, devant mon besoin ici-bas de connaître le Père, Jésus dit, ne sois pas troublé, fais-moi confiance, je m'en occupe. Devant mon besoin de répondre à la vocation que Dieu me donne et Dieu vous donne en tant que chrétien, nous devons bâtir le royaume de Dieu, faire venir le royaume et que le Seigneur Jésus-Christ saisisse de plus en plus et appelle ses élus. Devant cet appel ardu, Jésus dit, croyez-moi, faites-moi confiance, vous allez faire de plus grandes œuvres que celles que vous m'avez vu faire. Donc, ne soyez pas troublés, ni devant votre besoin de connaître le Père, ni devant votre besoin de servir ici-bas. Ok, vous voyez? Donc, devant le besoin du futur, devant les besoins du présent, que nos cœurs ne soient pas troublés, vivant dans la confiance. Donc le thème de tout ce chapitre, c'est cela, que la vie du chrétien est vécue dans une atmosphère, j'aime le penser ainsi, que mon cœur lui-même, la disposition de mon cœur et ton cœur, est gardé, et je sais qu'il y a des hauts et des bas, hein, on panique parfois hein, devant des choses, mais c'est-à-dire que nous apprenons à vivre plus stablement dans une atmosphère de repos, de confiance et de certitude plutôt que de panique, d'angoisse et de confusion. C'est ça que le Seigneur veut que nous fassions. Maintenant, nous allons prendre le verset 1 au microscope pour finir. Jean 14, 1 au microscope. Premier point. Le facteur déterminant dans ta vie à tout moment n'est pas tes circonstances, mais l'état de ton cœur. Alors, où est-ce que tu en es en ce moment? Où est-ce que tu en as été dans la semaine ou dans ce mois? Si vous avez eu des situations difficiles dans la famille, au travail, dans la santé, où est-ce que vous étiez? Et quel était le facteur déterminant? Qu'est-ce qui détermine si vous vivez une vie confuse, ébranlée, anxieuse, paniquée, ou si vous traversez la vie et ses troubles avec un cœur confiant et calme et reposé? Le facteur déterminant n'est pas ce qui vous arrive. Mais Jésus dit, le facteur est votre cœur. Regardez le verset. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Le verbe en grec est un verbe au passif qui signifie ne laissez pas troubler ton cœur. Ne permettez pas que votre cœur soit dans la tourmente, dans un état, dans une disposition tourmentée. C'est un commandement négatif. Ne permettez pas, chrétien. Ne tolérez pas que la tourmente soit l'atmosphère de votre cœur. C'est une désobéissance. Et le cœur, voilà deux personnes qui traversent une même circonstance vraiment déchirante. La mort d'un proche, la perte de la carrière, enfin une chose vraiment, une trahison horrible, ou peut-être tous les trois ensemble, Et voilà deux personnes qui vivent au même moment la même chose. Chez une de ces personnes, le cœur est dans un état complètement paniqué, confus, déchiré, frustré, en colère. On ne peut presque pas parler à la personne parce que la personne est tellement sur les nerfs. Ça, c'est son état de cœur. D'accord? La personne ne sait pas où se donner de la tête. C'est l'angoisse qui est l'atmosphère de son cœur. Et voilà l'autre personne qui vit la même chose, mais qui s'approche de Dieu, qui est convaincu que Dieu est là dans cette chose. Que Dieu n'est pas la source du mal qu'il vit, mais que Dieu, dans sa bonté, a permis ce mal et veut l'accompagner tellement fortement dans ce mal que ce mal est changé en bien. Cette personne est convaincue que Dieu qui a donné son fils pour moi, comment est-ce que maintenant il va faire moins que donner son fils? S'il a tout donné, alors maintenant dans cette situation, il n'est pas un Dieu qui puisse m'abandonner une seule seconde. Donc il est dans les larmes aussi. D'accord? Quand je parle de paix de cœur ou de confiance, je parle que Paul dit à un moment donné, nous sommes dans le chagrin, mais se réjouissons. Et on peut avoir des larmes et être joyeuse. On peut être durement tenté et éprouvé et le sentir et faire confiance. D'accord? Parfois, on a un sentiment que la confiance tient un fil, n'est-ce pas? Mais en grandissant, j'ai vu des chrétiens expérimenter, mais franchement, vivre des choses et on se demande, mais comment est-ce qu'ils sont aussi calmes dans cette situation? Mais une conviction de la présence de Dieu qui est tellement plus grande que le problème, c'est assez émerveillant. Maintenant, la première personne qui est paniquée, qui doute de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu fait cela et qui donc rien ne peut aller quand on a cette attitude-là, n'est-ce pas? Rien, absolument rien. L'angoisse, il essaie lui-même de réparer, n'est-ce pas? Quelle sorte de vie est-ce que ça produit à la longue une telle attitude de cœur? Si cette personne doit vivre dans une épreuve pendant 2 ou 3 ans, qu'est-ce que ça forge en lui comme caractère? N'est-ce pas? C'est intéressant, hein? Un cœur tourmenté produit une personne impatiente, mécontente, coléreux, sur les nerfs. Et l'autre personne, cette personne qui a appris à se confier au Seigneur, à se reposer en lui, à trouver sa force dans le calme et le retour à Dieu, qu'est-ce que ça produit au fil du temps? Ça produit quelqu'un d'étonnant. Le contentement, la paix, le calme du cœur, la possibilité de ne pas penser tout le temps à mes problèmes, n'est-ce pas? Mais de regarder les autres, la foi libère, ok? La personne qui n'a pas la foi ne pense qu'à ses problèmes, la personne qui a la foi oublie ses problèmes et pense aux autres. Ça produit une vie, un caractère très différent, n'est-ce pas? Donc vous voyez que le facteur déterminant, ce n'est pas ce qui vous arrive. C'est la disposition et la réponse du cœur à Dieu. Est-ce que c'est la foi dans un Dieu plus grand que le problème et ou le doute et donc la tourmente? Voyez, nous avons de quoi faire, n'est-ce pas, quand nous traversons des épreuves, à crier à Dieu, à nous apprendre qui il est et pourquoi nous pouvons être confiants. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est simplement, et je le dirai rapidement, un cœur tourmenté et un cœur confiant sont mutuellement exclusifs. L'avez-vous vu dans le verset? Jésus donne deux commandements mutuellement exclusifs. Il dit que votre cœur ne soit pas tourmenté et troublé. Croyez plutôt, soyez confiants plutôt dans le Père et aussi en moi. Les deux ne peuvent pas exister en même temps dans la même personne. Si j'ai un problème de santé très grave et je vais chez le médecin et il dit, oui, ça peut vous tuer ce que vous avez, monsieur, mais j'ai guéri plein de gens avec votre maladie, mon traitement a toujours marché. Si je pars de là, et il commence son traitement, si je pars de là confiant, croyant que c'est vrai, n'est-ce pas? Mais si je ne le crois pas, si j'ai des pleins de doutes par rapport à ce qu'il me dit, n'est-ce pas? C'est soit la confiance, soit la tourmente. Et les deux s'excluent mutuellement. Le remède pour un cœur tourmenté, c'est toujours la foi. Troisièmement, en tant que chrétien, tu n'as pas l'option de vivre avec un cœur tourmenté, un cœur tourmenté, anxieux, inquiet, troublé. Nous devons nous rappeler quand même que c'est un commandement. Et je voudrais tout simplement vous donner un exemple, vous lire une petite histoire vraie à ce sujet, que l'enjeu, c'est la toute suffisance de Dieu. C'est là tout le problème devant lequel nous sommes. Si nous passons par des choses très difficiles et nous sommes complètement dans la tourmente, qu'est-ce que cela annonce au monde? Que notre Dieu est un Dieu très petit qui ne peut pas, en tout cas, il est complètement insuffisant pour nous amener, pour nous accompagner à travers les choses si mauvaises que Satan est capable de fomenter dans ce monde. C'est le message. Et c'est ça la gravité de cette question. Mais si nous traversons le pire des situations de ce monde que Satan peut nous envoyer et que nous vivons dans la paix, la joie, la confiance, même à travers nos larmes, c'est le message que nous avons un Dieu qui est tout suffisant. Écoutez ceci. Cette dame qui a écrit un livre très renommé dans l'histoire du christianisme raconte son histoire personnelle. Elle s'appelle Anna Whitehall Smith. La chose, donc elle est tombée dans une situation, une épreuve extrêmement douloureuse et déchirante. Elle dit ceci en écrivant un livre après. La chose qui m'a aidé personnellement plus que tout autre, arriver à la conviction que Dieu était vraiment suffisant pour moi, était une expérience que j'ai eue il y a quelques années. C'était un moment de ma vie religieuse où je traversais beaucoup de questions et de perplexités, et j'avais l'impression qu'aucun chrétien n'avait jamais eu des difficultés aussi particulières que les miennes. Il se trouve que juste à ce moment, près de chez moi, logeait pendant quelques semaines une dame considérée comme une chrétienne profondément spirituelle. On m'a conseillé de lui demander de l'aide spirituelle. J'ai rassemblé mon courage, donc un après-midi, et je suis allé la voir, dévoilant toutes mes douleurs. Je m'attendais bien sûr à ce qu'elle prenne un profond intérêt pour moi et qu'elle se donne beaucoup de mal pour faire tout ce qui était en son pouvoir pour m'aider. Elle a écouté patiemment et ne m'a pas interrompu, mais quand j'ai fini de raconter toute mon histoire et que je m'étais arrêté, m'attendant à une expression de sympathie et de compassion, elle a simplement répondu « Oui, tout ce que vous dites peut être très vrai, mais malgré tout, il y a Dieu. » J'ai attendu quelques minutes pour quelque chose de plus de sa part, mais rien de plus n'est venu, et ma conseillère avait l'air d'avoir dit tout ce qui était nécessaire. Mais j'ai poursuivi, vous n'avez sûrement pas compris à quel point mes difficultés sont sérieuses et perplexes. « Oh oui, » répondit mon ami, « mais alors, comme je te le dis, il y a Dieu. » Et je ne pouvais pas la pousser à faire une quelconque autre réponse. Cela m'a semblé très décevant et insatisfaisant. J'ai senti que mes expériences particulières et vraiment déchirantes ne pouvaient pas être résolues par quelque chose d'aussi simple que simplement la déclaration « Oui, mais il y a Dieu ». Je savais que Dieu était là, bien sûr, mais je sentais que j'avais besoin de quelque chose de plus que Dieu, simplement. Et je suis arrivé à la conclusion que mon amie, malgré sa grande réputation de conseillère spirituelle, n'était en aucun cas en mesure de s'attaquer à un cas particulier comme le mien. Cependant, mon besoin était si grand que je n'ai pas abandonné après ma première tentative, mais je suis retourné chez elle plusieurs fois. Toujours avec l'espoir qu'elle commencerait à un moment donné à comprendre l'importance de mes difficultés et qu'elle me donnerait à ce moment-là une aide adéquate. C'était inutile. Je n'ai jamais pu tirer une quelconque autre réponse. À tout ce que je pouvais lui dire, revenait toujours cette réponse simple avec un air d'en finir ainsi avec le sujet. « Oui, je sais, mais il y a Dieu. » Enfin, par la force de ces répétitions constantes, je suis devenu convaincu que mon ami croyait vraiment que le simple fait de l'existence de Dieu en tant que créateur et rédempteur de mon âme était une réponse complètement suffisante à tous les besoins possibles. Et enfin, et je finis la lecture, enfin, parce qu'elle l'a redit si souvent, et parce qu'elle semblait si sûre, j'ai commencé vaguement à me demander si, après tout, Dieu ne serait peut-être pas suffisant. Oui, même pour ce besoin extrême, qui me semblait si écrasant et profane. Bientôt, je suis passé du stade de me demander si elle avait raison, au stade de croire vraiment que Dieu, étant mon sauveur, devait être suffisant. Et puis, une conviction et une certitude a fait puissamment irruption dans ma pensée, dans mon cœur, qu'il était vraiment suffisant, et mes yeux ont été ouverts au fait de la toute suffisance absolue de Dieu. Mes problèmes ont disparu comme par magie. Les problèmes, la situation n'a pas changé. C'est pas ça qu'elle voulait dire. Mon trouble intérieur. Et je n'ai fait que me demander comment j'aurais pu être un tel imbécile pour être troublé par ces choses quand tout le temps il y avait mon Dieu, le Tout-Puissant, qui gérait, qui voyait tout, qui était mon Créateur, mon Sauveur, qui était donc à mes côtés et désireux de prendre soin de moi et de m'aider. J'avais découvert que Dieu était suffisant et mon âme a trouvé le repos.
Quatrième point.
C'est tout le chapitre, enfin, tous ces 14 versets que nous venons de lire dans le chapitre 14 qui sont les raisons pour lesquelles vous pouvez être confiant. Ce n'est pas une foi vague en Dieu. C'est la foi dans le Dieu qui dit « Ton monde éclate en ce moment, comme pour les disciples ce soir-là, ton monde explose. Mais sache que même mon départ, même ce mal, c'est en fait le bien. Je m'en vais pour te préparer une vie éternelle. Je suis à l'œuvre même dans ce que tu vois de difficile. J'y suis puissamment pour t'assurer un avenir sans problème. Et dans le présent, je suis là, je ferai ce que vous me demandez dans mon nom, si c'est selon ma volonté. Et je vous accompagnerai. Tout ce qu'il nous dit dans ce verset, je vous donne la maison du Père, je vous donne le chemin, je vous donne la connaissance du Père, je vous donne à faire des œuvres plus grandes que moi. Tout cela, c'est la raison que nous pouvons traverser nos troubles avec la confiance. Je dois juste vous dire que Jésus dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». C'est bizarre comme phrase, n'est-ce pas? Ça vous semble un peu « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». En fait, dans le grec, dans la première partie, « Croyez en Dieu », c'est le mot « croire » qui est au premier, dans l'ordre des mots, mis en accent. « Croyez en Dieu ». Et puis, il change, il permute, il dit, pas « croyez en moi », mais il dit « en moi, croyez ». D'accord ? Comme pour dire, vous êtes habitué en tant que juif de l'Ancien Testament à croire en Dieu. Maintenant, je vous dis que votre foi en Dieu doit être focalisée en moi, parce que c'est moi que le Père a envoyé pour faire toutes les transactions entre lui et vous. C'est moi qui m'occupe. C'est moi qui suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je ferai quand vous demandez en mon nom. Je le ferai. Et quand nous nous confions en Jésus, et nous sommes en train de nous confier au Père, qui l'envoie comme notre sauveur. La dernière chose que nous devons dire, c'est simplement pourquoi est-ce que tout cela est si important? Pourquoi est-ce que l'ordre suprême pour votre vie chrétienne, c'est d'abord, assurez-vous que votre cœur est dans un état, dans une disposition confiante en Dieu. Ne pensez pas à quoi que ce soit d'autre, ne faites pas à quoi que ce soit d'autre. La première chose, c'est est-ce que mon cœur aujourd'hui et se confie à la confiance, se remet et est assuré, sait que Dieu est suffisant. Ça, c'est mon premier devoir. Mais pourquoi est-ce que cela est si important? Simplement à cause de ceci, chers amis. Si votre cœur n'est pas dans une attitude de foi, tout ce que vous faites ne vaut rien. Tout ce que nous faisons dans une atmosphère de cœur, de méfiance vis-à-vis de Dieu, que vous priez, que vous venez à l'église, que vous mémorisez des passages bibliques, et il y a des gens qui prient beaucoup de prières incrédules, d'accord ? Ils multiplient. Il y a même des religions qui sont bâties sur le fait de faire beaucoup d'œuvres dans l'incrédulité. Mais tout ce que nous faisons dans une attitude et une disposition de cœur qui n'est pas sûre de Dieu, de sa providence, de sa présence dans le trouble, de sa suffisance, de son amour, tout ce que nous faisons est un acte qui jaillit et découle de l'incrédulité, et c'est donc un péché. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, dit Hébreux chapitre 11. À un moment donné, les Juifs essaient de... Ils envoient des espions dans la terre promise, vous vous rappelez? Les espions reviennent, ils disent, la plupart, des 10 sur 12, « Non, 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 c'est impossible. Les gens sont trop grands, trop forts, on va être massacrés. » Et le peuple est incrédule, ne fait pas confiance à Dieu, que Dieu est suffisant pour cette situation. Et le peuple commence à pleurer, se lamenter, c'est la tourmente. Comme ce n'est pas la foi, c'est la tourmente. Et tout le monde panique, une nation entière panique, et se lamente et commence à pleurer. Les gens sont en train de pleurnicher. Et Dieu vient leur parler et leur montrer que ben, maintenant vous allez passer 40 ans de souffrance. Ça les réveille un peu. Et ils disent, on va y aller tout de suite. Et ils essaient d'aller le lendemain. Et qu'est-ce qui arrive? Ils sont battus. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons dans l'incrédulité ne vaut rien. Ne vaut rien. Ils sont allés faire la chose qu'ils devaient faire, mais pas dans la foi. Où est votre cœur vis-à-vis de Dieu? Il est dans la confiance ou dans la méfiance? Comment est-ce que nous pouvons ne pas avoir confiance dans le Dieu de Jean 14 et dans le Sauveur de Jean 14? Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais. La seule manière, c'est de m'en aller par une croix. Je reviens vous prendre. Est-ce que vous me joindrez cette année en nous repentant chaque fois que nous trouvons notre cœur tourmenté et pas confiant? Est-ce que vous me joindrez cette année en acceptant que mon plus grand problème et votre plus grand problème n'est jamais nos épreuves, mais toujours notre cœur et notre incrédulité? Est-ce que vous me joindrez dans cette année 2019 pour faire de cette année, et moi je voudrais le faire vraiment, et dire cette année sera l'année où je veille sur mon cœur vis-à-vis de cette seule question, est-ce que je suis en train de croire que Dieu est suffisant? Jusqu'au point que ça me sort de la tourmente et m'amène dans le repos. Je voudrais me poser cette question 1000 fois cette année. Ça veut dire presque 3 fois par jour. Est-ce que je suis dans un état du cœur qui fait confiance que Dieu est tout suffisant et Christ est tout suffisant jusqu'au point où c'est en train de me sortir de la tourmente et de me mettre dans la paix? Parce que c'est un commandement. Le Seigneur veut vous amener justement là, vers cette vie-là. N'est-ce pas merveilleuse? Croyez en Dieu, croyez aussi en Christ. Nous allons chanter un chant au sujet de la confiance pour terminer. Dans le carnet, c'est le numéro 11. Il faut qu'on Dieu l'en se confie.